Chapitre 15. Le bruit de cette affaire se répandit vite dans Athènes, car dans chaque rue et avec tous les citoyens rencontrés, je parlais de cette affaire qui contribuait à renforcer la réputation de mon vieil cher ami Bisistrate. Il en devenait ainsi l'homme le plus généreux jamais apparu en Attique. Les gens ne discutaient pas mes arguments. Dès lors, la terre de ce paysan, pauvre, fut appelée le champ sans impôt. Pisistrate, plus célèbre et respecté, on aima le voir aller et venir au milieu des travaux qu'il avait fait entreprendre, théâtre et temple, élargissement des rues, installation de places pour aérer la ville. Un jour, alors qu'il montait vers l'Acropole pour suivre l'édification de son Parthénon, devant lui un vieil homme s'arrêtait à chaque marche pour récupérer son souffle. « Tu viens donner un coup de main ?» lui dit Pisistrate, sourire en coin. « Ne te moque pas, » dit l'autre, avec un accent ionien très marqué. « Mais je vois, » dit Pisistrate, « tu arrives d'Éphèse. » Car on vient voir les travaux d'Athènes d'un peu partout, et même d'Éphèse, justement où se trouve le magnifique temple d'Artémis, que mes architectes ont étudié. Si tu en viens, c'est par curiosité ou pour critiquer? Et comment te nomme-t-on? Thalès. Je ne suis pas d'Éphèse, mais de Milet. Oui, j'ai entendu qu'un certain Pisistrate refonde toute sa ville, faisant construire sans arrêt. On y trouve ici que des chantiers énormes. On peut plus marcher sans avoir enjambé des matériaux, des pierres, du ciment, des outils qui traînent. Et Pisistrate, c'est moi. Quel plaisir de rencontrer un tel savant. J'espère que tu vas vérifier les plans et projets de mes architectes, puisqu'on m'a dit ta science en géométrie, tu aurais proposé et résolu un théorème, prédit l'éclipse totale de soleil, que j'ai vu quand j'avais 15 ans. Oh, je me rappelle ma mère, humant de peur. Et soudain, il avait fait très froid. Peu à peu, la lumière est enfin revenue, et nous ne comprenions pas. « Tu es aussi astronome, dit-on ?»« Oui, enfin, je m'efforce de l'être, sans prétention. Attention. Je pense... Non, j'en suis sûr, le soleil est un astre, pas un dieu. Voir en lui un Apollon sur son char, tournant autour de la Terre, m'amuse beaucoup. » Je suppose, et je ne suis pas le seul, que la Terre est aussi ronde que la Lune. D'autres le prouveront, après moi. Beaucoup ne me croient pas. Je fais foi à l'avenir. D'autres le prouveront après moi. Thalès, prends mon bras, que je t'aide à monter, voir s'élever les premières colonnes de mon Parthénon. « Parthénon, reprit Thalès. Oui, parce qu'Athéna est vierge. Parthénos, tu sais bien. Ah oui, j'aurais dû y songer. Tu vois, oh, mes facultés baissent. » Thalès, dès que nous redescendons de l'Acropole, je t'invite chez moi afin que ton grand âge y trouve le vivre et le couvert. Mes quatre fils, surtout les deux aînés, profiteront de ta sagesse. Tu leur donneras une solide étude de réflexion afin qu'ils aient un avenir brillant. Je les veux meilleurs que moi. Oh, seront-ils vraiment meilleurs et plus sages quand j'aurai récité les fables d'Ésope? J'ai rencontré ce brave homme à Samos. Les gens ont affirmé qu'il était esclave et bossu de surcroît. Mais non, au contraire, grand et maigre. Il est étrange de voir combien l'imagination fait faire de sottises et dire de sottises. As-tu connu Périandre qui gouverne à Corinthe? Hélas, non, j'étais trop jeune. Mais il était discuté avec Solon. Il avait quitté quand celui-ci revint de ses voyages et il s'indignait de la richesse scandaleuse de certains. Sais-tu que Solon s'était arrêté à Lindos, dans l'île de Rhodes? Bon, vous nous en avez peut-être parlé, mais je ne m'en souviens plus. J'étais gamin. Mais il avait longuement échangé avec Cléobule le tyran. Tous deux étaient tombés d'accord pour affirmer que la mesure est la meilleure des choses. Cette idée dut l'inspirer, ceux qui ont écrit sur l'Empire de Delphes, le temple de Delphes. Rien de trop, mais des naganes. Voilà de quoi enseigner à ton fils. Quant à moi, je te recommande d'en parler à Thespis. Il devrait composer des tragédies à ce sujet. Ces pièces montreraient au peuple que la démesure conduit toujours à la catastrophe pour le personnage principal et sa famille. Agamemnon, sa femme, Édipe, Ménélas, tous ont payé cher cette démesure, cette hubris abominable. Oh, Solon, et maintenant Thalès, votre sagesse m'inspire désormais. Que l'ai-je connu de près, Bias, Pitakos, Kilon de Sacédémone? Dans l'avenir, je voudrais passer pour le 8e sage, être un père comblé, soit père de la vraie démocratie. Ce titre sera autant de gagner. Mais je m'y emploie autant que je le peux. Chez Pisistrate, j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Thalès. Oh, je passe sur le merveilleux moment à parler de tout et de rien, mais surtout de science et de religion sur laquelle il émettait force doute. Cependant, il restait prudent au milieu de gens très superstitieux. Chez Pisistrate, il pouvait parler. Il repartit pour Milet, finir ses vieux jours. Et Pisistrate fut marqué au plus profond du cœur par ce savant de haute culture. Il espéra que ses fils en auraient tiré l'amour de la sagesse pour inspirer les Athéniens après lui. En attendant, parfaire les idées de Solon, surtout le pouvoir du peuple entier, dans cette Athènes qui voulait vraiment nouvelle, la tâche était rude. Nous en avons longuement débattu, lui et moi. J'avoue que souvent, nous n'avions pas pris le même avis. Ce pouvoir du peuple, j'avoue que je n'y croyais guère. Je connaissais mes Athéniens, toujours à ergoter, à chicaner, plus procéduriers et contestataires que tous les autres Grecs. Pour commencer, il voulait réviser le concept de l'archonta. Les 9 archontes ne devaient plus être pris uniquement chez les plus riches, mais résulter d'une élection dans chaque dème, puis de nouveau être élus parmi les membres de la boule. Ils auraient le pouvoir pour une seule année, en place des 10 ans du temps de Dracon. Ainsi, chaque citoyen aurait sa chance d'être archonte. Parmi eux, l'éponyme serait tiré au sort. Le polémarque, quant à lui, serait élu par la boule en vertu de capacités reconnues pour gérer les affaires militaires. L'archonte roi devait avoir des connaissances parfaite dans le domaine de la religion et des lois, puisqu'il aurait organisé les fêtes des divers dieux, à présider au besoin un tribunal dans les affaires délicates et les accusations graves de meurtre ou de trahison. Pour les accusations d'impiété, le tribunal de l'Aréopage, composé d'anciens archontes, garderait le privilège de les juger. Les Aréopagites, seuls anciens archontes, étaient déjà nommés à vie. Dans leur statut, Pisistrate exigea aucune modification. En vue de la puissance d'Athènes, j'ai insisté sur la fonction militaire de tous les garçons nés de citoyens légitimes, autant père que mère. Les démarques eurent ainsi la charge de la dokinasie, sorte de conseil de révision. Chaque année, dans chaque dème, des hommes choisiraient des éphèbes bien conformés tant au physique qu'au moral. Ces jeunes seraient examinés nus. Ils devraient montrer à leur capacité notoire de marcher droit, être présentés par leurs parents comme bien élevés, polis, respectueux des anciens et des coutumes antiques. En outre, savoir les noms des dieux officiels, connaître leurs attributions, leur histoire dans la mythologie, les dates de leurs fêtes respectives, les prières à leur adresser, les divers lieux de Grèce où ils étaient particulièrement honorés. De même, ils devraient au moins savoir lire les inscriptions et textes de loi. À l'issue de la dokimasie, il serait déclaré ou non kalos kagatos, autrement dit beau et bon. Reçu à cet examen, un éphèbe devrait acquérir la solide formation militaire exigée, puis recevoir ses armes d'hoplite avant de pouvoir se présenter soit à une action, soit à un tirage au sort en vue d'une magistrature ou d'une stratégie. Cette dernière responsabilité consistait déjà à commander un corps d'armée, et au nombre de 12, les stratèges seraient élus par leurs égaux au nom de leur courage et de leur talent. Bien que très attaché à la démocratie, Pisistrate ne pensait pas changer la structure fondamentale d'une société de classe. Elles étaient au nombre de 4, les riches, les chevaliers, ceux ayant les moyens d'entretenir un cheval, les eugites, pouvant posséder un attelage de bêtes de somme, enfin les têtes, soit les plus pauvres. Sans pouvoir accéder aux plus hautes magistratures, ces derniers eurent cependant le droit de participer aux assemblées et de siéger dans les tribunaux ordinaires. Ce classement avait été voulu par Solon et ne fit plus objet de contestation. En effet, aux yeux du peuple, le milieu de naissance de chaque individu résultait de la volonté du destin, donc des dieux. On ne pouvait changer de classe qu'à condition de s'être assez enrichi. Cependant, si on n'avait plus le moyen de retenir un cheval, on entrait chez les eugites, voire chez les têtes. La démocratie, oh certes, mais toute relative aux moyens financiers. Chapitre 15. Le bruit de cette affaire se répandit vite dans Athènes, car dans chaque rue et avec tous les citoyens rencontrés, je parlais de cette affaire qui contribuait à renforcer la réputation de mon vieil cher ami Pisistrate. Il en devenait ainsi l'homme le plus généreux jamais apparu en Attique. Les gens ne discutaient pas mes arguments. Dès lors, la terre de ce paysan, pauvre, fut appelée le champ sans impôts. Pisistrate, plus célèbre et respecté, on aima le voir aller et venir au milieu des travaux qu'il avait fait entreprendre, théâtre et temple, élargissement des rues, installation de places pour aérer la ville. Un jour, alors qu'il montait vers l'Acropole pour suivre l'édification de son Parthénon, devant lui un vieil homme s'arrêtait à chaque marche pour récupérer son souffle. « Tu viens donner un coup de main ?» lui dit Pisistrate, sourire en coin. « Ne te moque pas, » dit l'autre, avec un accent ionien très marqué. « Mais je vois, » dit Pisistrate, « tu arrives d'Éphèse, car on vient voir les travaux d'Athènes d'un peu partout, et même d'Éphèse, justement où se trouve le magnifique temple d'Artémis, que mes architectes ont étudié. Si tu en viens, c'est par curiosité ou pour critiquer? Et comment te nomme-t-on? Thalès. Je ne suis pas d'Éphèse, mais de Milet. Oui, j'ai entendu qu'un certain Pisistrate refonde toute sa ville, faisant construire sans arrêt. On y trouve ici que des chantiers énorme. On ne peut plus marcher sans avoir enjambé des matériaux, des pierres, du ciment, des outils qui traînent. Et Pisistrate, c'est moi. Quel plaisir de rencontrer un tel savant. J'espère que tu vas vérifier les plans et projets de mes architectes, puisqu'on m'a dit ta science en géométrie. Tu aurais proposé et résolu un théorème prédit l'éclipse totale de soleil que j'ai vue quand j'avais 15 ans. Oh, je me rappelle ma mère, humant de peur. Et soudain, il avait fait très froid. Peu à peu, la lumière est enfin revenue et nous ne comprenions pas. « Tu es aussi astronome, dit-on ? » « Oui, enfin, je m'efforce de l'être, sans prétention, attention. » je pense... Non, j'en suis sûr. Le soleil est un astre, pas un dieu. Voyons-lui un Apollon sur son char tournant autour de la Terre m'amuse beaucoup. Je suppose, et je ne suis pas le seul, que la Terre est aussi ronde que la Lune. D'autres le prouveront, après moi. Beaucoup ne me croient pas. Je fais voir l'avenir. D'autres le prouveront après moi. Thalès, prends mon bras, que je t'aide à monter, voir s'élever les premières colonnes de mon Parthénon. Parthénon, reprit Thalès. Oui, parce qu'Athéna est vierge. Parthénos, tu sais bien. Ah oui, j'aurais dû y songer. Tu vois, oh, mes facultés baissent. Thalès, dès que nous redescendons de l'Acropole, je t'invite chez moi afin que ton grand âge y trouve le vivre et le couvert. Mes quatre fils, surtout les deux aînés, profiteront de ta sagesse. Tu leur donneras une solide étude de réflexion afin qu'ils aient un avenir brillant. Je les veux meilleurs que moi. Oh, seront-ils vraiment meilleurs et plus sages quand j'aurai récité les fables d'Ésope? J'ai rencontré ce brave homme à Samos. Les gens ont affirmé qu'il était esclave et bossu de surcroît. Mais non, au contraire, grand et maigre. Il est étrange de voir combien l'imagination fait faire de sottises et dire de sottises. As-tu connu Périandre, qui gouverne à Corinthe? Hélas, non, j'étais trop jeune. Mais j'étais discuté avec Solon. Il avait quitté quand celui-ci revint de ses voyages, et il s'indignait de la richesse scandaleuse de certains. Sais-tu que Solon s'était arrêté à Lindos, dans l'île de Rhodes? Bon, vous nous en avez peut-être parlé, mais je ne m'en souviens plus. J'étais gamin. Mais il avait longuement échangé avec Cléobule le tyran. Tous deux étaient tombés d'accord pour affirmer que la mesure est la meilleure des choses. Cette idée dut l'inspirer ceux qui ont écrit sur l'Empire de Delphes, le temple de Delphes. Rien de trop, mais des naganes. Voilà de quoi enseigner à ton fils. Quant à moi, je te recommande d'en parler à Thespis. Il devrait composer des tragédies à ce sujet. Ces pièces montreraient au peuple que la démesure conduit toujours à la catastrophe pour le personnage principal et sa famille. Agamemnon, sa femme, Édipe, Ménélas, tous ont payé cher cette démesure, cette hubris abominable. Oh, Solon, et maintenant Thalès, votre sagesse m'inspire désormais. Que l'ai-je connu de près, Bias, Pythagoras, Chilon de Lacédémone. Dans l'avenir, je voudrais passer pour le 8e sage, être un père comblé. Sois père de la vraie démocratie, ce titre sera autant de gagner. Mais je m'y emploie autant que je le peux. Chez Pisistrate, j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Thalès. Oh, je passe sur le merveilleux moment à parler de tout et de rien, mais surtout de science et de religion sur laquelle il émettait force doute. Cependant, il restait prudent au milieu de gens très superstitieux. Chez Pisistrate, il pouvait parler. Il repartit pour Milet, finir ses vieux jours. Et Pisistrate fut marqué au plus profond du cœur par ce savant de haute culture. Il espéra que ses fils en auraient tiré l'amour de la sagesse pour inspirer les Athéniens après lui. En attendant, parfaire les idées de Solon, surtout le pouvoir du peuple entier, dans cette Athènes qui voulait vraiment nouvelle. La tâche était rude. Nous en avons longuement débattu, lui et moi. J'avoue que souvent, nous n'avions pas pris le même avis. Ce pouvoir du peuple, j'avoue que je n'y croyais guère. Je connaissais mes Athéniens, toujours à ergoter, à chicaner, plus procéduriers et contestataires que tous les autres Grecs. Pour commencer, il voulait réviser le concept de l'archonta. Les 9 archontes ne devaient plus être pris uniquement chez les plus riches, mais résulter d'une élection dans chaque dème, puis de nouveau être élus parmi les membres de la boule. Ils auraient le pouvoir pour une seule année, en place des 10 ans du temps de Dracon. Ainsi, chaque citoyen aurait sa chance d'être archonte. Parmi eux, l'éponyme serait tiré au sort. Le polémarque, quant à lui, serait élu par la boule en vertu de capacités reconnues pour gérer les affaires militaires. L'archonte roi devait avoir des connaissances parfaite dans le domaine de la religion et des lois, puisqu'il aurait organisé les fêtes des divers dieux, à présider au besoin un tribunal dans les affaires délicates et les accusations graves de meurtre ou de trahison. Pour les accusations d'impiété, le tribunal de l'aéropage, composé d'anciens archontes, garderait le privilège de les juger. Les aéropagites, seuls anciens archontes, étaient déjà nommés à vie. Dans leur statut, Pisistrate exigea aucune modification. En vue de la puissance d'Athènes, j'ai insisté sur la fonction militaire de tous les garçons nés de citoyens légitimes, autant père que mère. les démarques eurent ainsi la charge de la doctrinasie, sorte de conseil de révision. Chaque année, dans chaque dème, des hommes choisiraient des éphèbes bien conformés tant au physique qu'au moral. Ces jeunes seraient examinés nus. Ils devraient montrer à leur capacité notoire de marcher droit, être présentés par leurs parents comme bien élevés, polis, respectueux des anciens et des coutumes antiques. En outre, savoir les noms des dieux officiels, connaître leurs attributions, leur histoire dans la mythologie, les dates de leurs fêtes respectives, les prières à leur adresser, les divers lieux de Grèce où ils étaient particulièrement honorés. De même, ils devraient au moins savoir lire les inscriptions et textes de loi. À l'issue de la dokimasie, ils seraient déclarés ou non kalos kagatos, autrement dit beau et bon. Reçu à cet examen, un éphèbe devrait acquérir la solide formation militaire exigée, puis recevoir ses armes d'hoplite avant de pouvoir se présenter soit à une action, soit à un tirage au sort en vue d'une magistrature ou d'une stratégie. Cette dernière responsabilité consistait déjà à commander un corps d'armée, et au nombre de 12, les stratèges seraient élus par leurs égaux au nom de leur courage et de leur talent. Bien que très attaché à la démocratie, Pisistrate ne pensait pas changer la structure fondamentale d'une société de classe. Elles étaient au nombre de 4, les riches, les chevaliers, ceux ayant les moyens d'entretenir un cheval, les eugites, pouvant posséder un attelage de bêtes de somme, enfin les têtes, soit les plus pauvres. Sans pouvoir accéder aux plus hautes magistratures, ces derniers eurent cependant le droit de participer aux assemblées et de siéger dans les tribunaux ordinaires. Ce classement avait été voulu par Solon et ne fit plus objet de contestation. En effet, aux yeux du peuple, le milieu de naissance de chaque individu résultait de la volonté du destin, donc des dieux. On ne pouvait changer de classe qu'à condition de s'être assez enrichi. Cependant, si on n'avait plus le moyen de retenir un cheval, on entrait chez les eugites, voire chez les têtes. La démocratie, oh certes, mais toute relative aux moyens financiers.